Vous écoutez
RMC. RMC.
7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian PC.
Voilà, 7h11. Nous sommes de retour. Et ce week-end des experts jusqu'à 10h, vous le savez, avec les meilleurs experts de France qui sont là. Raphaël Grabi tout à l'heure entre 9 et 10 pour bien choisir sa télé. Peut-être que vous vous apprêtez à investir un petit peu d'argent pour les fêtes de Noël, pour changer de télé. Ben on va tout vous dire, qu'est-ce qu'il faut choisir actuellement. On retrouvera aussi le docteur Christian Aiquet. On fera un bilan sur la télémédecine, tiens, un an après sa généralisation en France. Qu'est-ce que ça donne? Et puis, vous le savez, pour poursuivre cette matinée après le jardin, c'est la maison. Christian PC, bonjour.
Eh bien, bonjour mon cher François, allez-vous bien cette matinée du mois de décembre.
Magnifiquement bien, il fait un petit peu plus doux qu'hier, c'est déjà
pas mal. Incroyable.
C'est dingue, hein.
Il faisait, j'ai regardé, 14 degrés tout à l'heure.
14 degrés, Christian.
Mais c'est dingue.
Formidable. Et on va évoquer tout à l'heure les diagnostics immobiliers. Alors, ça n'a rien à voir avec les températures, quoique, hein,
peut-être qu'il y aura
un diagnostic qui sera lié à ça.
Eh bien, le DPE est largement diagnostic de performance énergétique et bien voilà, directement lié au chauffage.
Alors voilà, vous pourrez tout savoir sur les diagnostics immobiliers et puis surtout poser vos questions sur les diagnostics au 32-16.
Et qu'est-ce qui va changer?
Rappelons que les diagnostics sont obligatoires aujourd'hui à certains moments d'existence d'une maison.
Tout à fait.
Ou à certaines transactions. On en parlera donc. On retrouvera aussi notre rendez-vous avec le mois du gaz, vos coups de cœur bien sûr. Et puis à tout moment, vous pouvez joindre Christian PC, vous le savez, le 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Vous êtes prêt, Christian?
Mais tout à fait, dans les starting blocks.
Vous êtes dans les starting blocks, ça va, on peut y aller.
Allons-y.
On peut appuyer sur le bouton.
Allez-y,
alors, on appuie sur le bouton. C'est... Vous avez bien appuyé, là, c'était parfait.
Vous avez remarqué?
Ah oui, nickel.
Le geste ample.
Patrick est avec nous. Bonjour, Patrick.
Oui, bonjour, Christian. Bonjour.
Bonjour, Patrick.
Bonjour, Patrick. Bienvenue sur RMC.
Oui, merci.
On vous écoute.
Alors, voilà, j'ai fait l'acquisition d'un appartement dans l'ancien, à Nice.
Oui.
Et c'est un grand appartement. Sur cette fenêtre, j'en ai 5 qui prennent l'eau. Et je m'en suis aperçu, bien sûr, très nettement après la vente. Enfin, j'ai acheté en septembre, là, et puis avec les pluies d'octobre, novembre.
Il faut dire que vous avez été servi. C'était pas des pluies tout à fait ordinaires.
Oui, oui, c'est vrai. On a eu quelques belles averses là.
Ouais.
Et au départ, je me suis rendu compte de ça dans la fenêtre de la cuisine. Bon, j'ai assez rapidement vu que à cet endroit-là, ça rentrait. En fait, l'eau s'accumule un petit peu sur la margelle. Et ça rentre en dessous, c'est des fenêtres PVC hein, qui ont été changées.
J'ai vu, vous nous avez envoyé les photos. Hein.
Voilà. Et je pense que en fait, l'étanchéité entre la margelle et l'ancien montant n'est pas bonne. Et puis après, par contre, côté fenêtre qui donne sur le petit balcon, là c'est catastrophique parce qu'en fait, il y a même une des deux fenêtres où le parquet dépasse de l'autre côté de la fenêtre. Donc naturellement, ça prend l'eau, l'humidité, puis ça traverse
oui.
Le côté vers l'intérieur. Quoi.
Donc quelle est votre question? Donc,
j'ai deux questions. D'une part, qu'est-ce que techniquement je peux faire pour pallier à ça? Et deuxièmement, est-ce que je peux invoquer le côté vis caché? Parce que je pense que les anciens propriétaires ne pouvaient pas ignorer ça. Et me l'ont caché, donc...
Alors, ils vous ont pas... C'est caché. La notion de vis caché, c'est quoi? Ça consiste à maquiller, ça voudrait dire que vos anciens propriétaires ont maquillé volontairement un vis pour que vous ne le voyiez pas. Donc, si par exemple, vous aviez eu un joint refait à la hâte avec du plâtre en pied de vos fenêtres pour masquer ce défaut, vous seriez dans la configuration des vis cachées. Là, j'ai vu vos photos, c'est pas le cas. C'est effectivement qu'il y a un jour, qu'il y a visiblement
il est pas caché.
Un manque, il est même pas caché du tout. Donc ça veut dire que vous êtes censé avoir visité sous toutes ces coutures l'appartement et que, y compris éventuellement en vous faisant assister, et que de toute façon vous auriez pu J'ai pas dit vous auriez dû, hein. Vous auriez pu vous en apercevoir. Ouais. Donc de ce côté-là, niette. Alors après, de toute façon, dans votre acte de vente, il est bien dit que vous prenez le bien en l'état. Donc en l'état, c'est ce qu'il y a là. Dire que vos anciens propriétaires n'auraient pas dû, les anciens propriétaires n'auraient pas dû honnêtement vous le dire. Oui, moi, je sais que. J'ai vendu un bien il n'y a pas très longtemps. J'ai dit, attention, il y a un endroit à la couverture. Là, il y a eu des tuiles qui se sont soulevées lors d'une tempête. Il faudra que vous fassiez attention à ça. Ça, c'est l'honnêteté. Mais je ne pense pas que... interrogez votre notaire. Hein, c'est le notaire, le juge de paix. Là-dessus, il va vous dire, vous avez des chances ou vous n'avez aucune chance. Donc, c'est sur ces possibilités de recours. En tout état de cause, tout ce que vous pourriez demander dans ce cadre-là, à supposer que ce soit accepté, ce serait une réduction du prix. Parce que vous n'allez pas annuler la vente parce que vous avez des fenêtres qui fuient. Hein. Et surtout, vous imaginez, vous avez vu ma première réaction, c'était de dire, ouais, mais c'était quand même une période exceptionnelle. Attendez de voir dans quelques semaines, dans quelques mois, ce qui va en être. Ça, c'est clair. Bon, ça, c'est la première des choses. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, évidemment qu'il y a des étanchéités à revoir. Mais là, il faut faire venir un fenêtrier, hein, pour faire venir un spécialiste de la question qui va vous dire ces fenêtres. Alors faites attention, hein, faites-en venir plusieurs parce que le premier qui va venir va dire il faut tout changer là. Comment elles sont vos fenêtres là? C'est une misère. J'imagine déjà, vous savez, je connais bien la région. Hein. Donc, vous en faites venir plusieurs. Et effectivement, il y a des possibilités déjà de rétablir des joints. Toutes ces fenêtres PVC, au bout de 10 ans, de 15 ans, je ne sais pas quel âge elles ont, eh bien, elles ont les joints périphériques qui foutent le camp. Donc, les joints, ça se remplace, ce n'est pas ça qui est la fortune. Voilà. Et en espérant qu'il ne va pas repleuvoir de la façon dont il a plu à Nice, j'ai quelques amis là-bas qui ont eu les pieds dans l'eau. Hein.
Je ferme les volets quand c'est comme ça.
J'allais vous dire, c'est effectivement la bonne précaution, fermer ses volets.
Voilà Patrick, merci beaucoup.
Merci bien, bonne journée.
Bonne journée à vous, et si tout comme Patrick vous voulez joindre Christian PC, n'hésitez pas 3216. Je vous rappelle que tout à l'heure on va parler des diagnostics immobiliers, source de questions et d'interrogations, donc n'hésitez pas, 3216, l'appli RMC Direct Studio avec votre numéro de téléphone si vous voulez qu'on vous rappelle. Il est temps maintenant de retrouver le conseil de Christian.
RMC, votre maison.
Le conseil béton de Christian Pesset.
Ça fait mal.
Mais à chaque fois sur le pied, c'est violent quand même.
Mais écoutez, je vais plus pouvoir venir, moi j'ai plus de pied. Là.
Faites attention. Christian,
oui.
Vous allez nous parler de la formule E plus c'est moins.
Oui. c'est pas la relativité restreinte ou générale.
Qu'est-ce que c'est? C'était pas votre moyenne à l'école.
Non plus. C'est lié à la future réglementation thermique, celle qui va succéder prochainement à l'ART 2012. C'est pour l'instant un label qui a été lancé il y a plusieurs années déjà. À titre expérimental, on parle également du label énergie carbone. Alors en fait, il s'agit d'une expérimentation qui préfigure donc la future réglementation, non plus seulement thermique, mais environnementale. Alors ça devrait s'appeler en fait la RE et plus la RT pour réglementation environnementale. Et ça va intégrer 4 niveaux de performance énergétique, mais surtout 2 niveaux de performance relatifs aux émissions de carbone à effet de serre qui sont liées aux produits de construction et aux équipements du bâtiment. C'est ce qu'on appelle, on en parle de plus en plus, l'empreinte carbone. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, l'empreinte carbone. Eh bien, ça veut dire ça. Ça mesure en plus, ça se mesure sur l'ensemble de la vie du bâtiment, depuis sa conception jusqu'à sa démolition. Alors ça, c'est difficile à effectivement conceptualiser, mais l'objectif, c'est quoi? C'est de faire des maisons à énergie positive, le BIPOS, c'est-à-dire des maisons qui produisent plus d'énergie qu'elles n'en consomment. Et ça existe déjà. Des maisons à très faible empreinte carbone également. Alors c'est possible. Il y a 7 bâtiments du pavillon à l'immeuble collectif et à l'immeuble de bureau qui ont reçu le fameux label E+, c'est moins. Il y en a un seul qui a obtenu, parce que ça va s'intituler comme ça, ça va se libeller comme ça. Il y en a un seul qui a obtenu le label E4C2, c'est-à-dire le max. Le surcoût de construction n'est pas aussi énorme que cela. Il est autour d'une dizaine de pourcents, mais les économies d'énergie sont considérables. Eh bien, cette formule E plus C moins, elle est à retenir et elle est à suivre. Vous allez voir, ça va apparaître très rapidement maintenant.
Très bien, Christian. Non, mais vous aviez plus de moins, plus que E plus ou C moins en moyenne globale.
J'étais, moi, j'étais un bon élève.
Un très bon élève, non, j'en suis sûr.
Pas trop mauvais, oui, effectivement.
Pas trop mauvais. Voilà. Pas très, très bon.
J'ai un sushi, bien sûr.
Ah non, vous dites pas trop mauvais. Quand on dit pas trop mauvais, mais... c'est pas très, très bon. Ou alors c'est parce que votre humilité vous empêche de dire que vous étiez excellent.
Je vous laisse cette appréciation.
Christian, on revient dans un instant. Mais on va évoquer les diagnostics immobiliers avec notre invité.
Pour diagnostiquer ensuite mon niveau universitaire.
Un spécial diagnostic immobilier avec notre invité Christian. Vos questions, 3216, l'appli RMC Direct Studio. À tout de suite.
La météo sur RMC avec Aramis Auto. 2000 voitures neuves et d'occasion au meilleur prix garanti. À retrouver en agence et sur aramisauto.com.
À Guillaume Gomis, on lui met 20 sur 20 pour la météo. Ça, c'est obligatoire.
Merci, François.
Mais je vous en prie, en revanche, côté soleil, c'est 0 sur 20.
Ouais, c'est mitigé, on va dire. Des conditions assez pluvieuses aujourd'hui dans le centre du pays. Quelques averses ce matin sur la Nouvelle-Aquitaine, le nord de l'Occitanie, l'Auvergne-Rhône-Alpes, le centre Val-de-Loire et de la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'au Grand Est. Prévoyez de faibles chutes de neige sur les Alpes, des précipitations qui s'atténuent peu à peu. Vous aurez même un peu de soleil sur les reliefs du massif central, du Jura et des Vosges. Plus au nord, le ciel est variable de la Bretagne et des pays de la vers les frontières belges, en passant par l'Île-de-France. Au menu, un mélange de grisailles et d'éclaircies, surtout vers les côtes de la Manche. Et ce, avant l'arrivée de nouvelles pluies ce soir sur la pointe bretonne. Un temps qui reste bien dégagé des Pyrénées au Languedoc-Roussillon vers la région PACA. Le tout malgré des plaques de nuages bas ce matin sur le golfe du Lion. Quant au vent, il va souffler jusqu'à 60 à 70 km/h. Un mot des températures encore en légère hausse. 0 à 12 degrés au lever du jour du nord au sud. 8 à 17 pour les maximales. Comptez 9 à Strasbourg, 10 degrés à Lyon. 11 à Lille et Paris, 12 à Toulouse, 14 à Brest et Bordeaux, 15 à Marseille, jusqu'à 17 degrés même pour Bastia.
RMC jusqu'à 8h.
Votre maison.
RMC.
7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Le rendez-vous maison d'RMC, c'est chaque samedi, 7h-8h. C'est exclusif chez nous, une heure dédiée donc à la maison, au bricolage avec Christian Pessé, qui répond à toutes vos questions. Tous les sujets liés à la maison sont évoqués chaque samedi. Et aujourd'hui, on va évoquer les diagnostics immobiliers, Christian.
Oui, on va évoquer les diagnostics immobiliers qui remontent déjà un certain nombre d'années. Et le phénomène déclenchant ou enclenchant, si on peut dire, ça a été le problématique de l'amiante. Et puis, il y a eu tout de suite aussi la recherche... du plomb. Alors, c'est quoi un diagnostic immobilier ? Notre invité, Christian Bey, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable technique chez Exim, qui est un réseau de bureaux de contrôle et diagnostics immobiliers. Vous allez, le confirmer. Ça a pour but d'informer à un certain moment, notamment ce qu'on appelle les mutations, c'est-à-dire la vente des logements, des maisons ou la mise en location, d'informer celui qui va prendre le bien d'un certain nombre de problèmes éventuels liés à un certain nombre de produits ou de phénomènes, on peut dire ça ?
C'est ça. En fait, les diagnostics ont deux utilités. Pour la vente, c'est plutôt une transmission d'informations. C'est justement par rapport à ce que disait votre auditeur tout à l'heure avec son problème de fenêtre. C'est un peu lié à ça, mais on parle plutôt de désordre du bâti. Donc tout ce qui va être recherche de plomb, recherche d'amiante, la sécurité en électricité, la sécurité au niveau du gaz, les surfaces pour les copropriétés, enfin ce genre de choses. Alors que du côté locatif, c'est plus un besoin des bailleurs d'avoir des informations pour pouvoir louer des biens dans le sens du logement décent.
D'accord.
C'est plus dans cet esprit-là. Alors d'un côté, on transmet de l'information et de l'autre côté, on corrige les erreurs pour avoir un logement décent.
Mais en aucun cas, parce que beaucoup de gens le croient, en aucun cas, ça n'entraîne une obligation de travaux ou d'intervention, sauf peut-être pour le gaz, des choses comme ça, alors, qui entraîne la sécurité.
Au niveau de la vente, ce n'est que du transfert d'information. Il n'y a pas d'obligation de réalisation de travaux. Il peut y avoir des, entre guillemets, je dirais, des inconvénients. Sans sans que ce soit vraiment nécessaire de faire des travaux. Mais par exemple, dans le cadre du gaz, il peut y avoir, par exemple, la découverte d'une anomalie qu'on appelle un DGI, un danger grave et immédiat. Et dans ces cas-là, il y a une obligation de faire réaliser les travaux correctifs dans un délai assez court. Sinon, le producteur, le fournisseur de gaz peut venir couper. Hein.
C'est ça. Il y a aussi l'assainissement, hein, je crois. Là, voilà. C'est un peu différent encore.
C'est encore différent.
On peut vous imposer de la mise aux normes aux frais de celui qui vend.
C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux choses. Il y a celui qui vend, qui est informé, qui doit faire, lui, les travaux dans un délai de 3 ans s'il en est informé. Et par contre, au niveau de la vente, c'est beaucoup plus court. Celui qui achète n'a qu'un an pour faire les travaux.
D'accord. Voilà. Louis est avec nous au 32-16. On est d'ailleurs sur le même sujet. Louis, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, Louis.
Bienvenue sur RMC, Louis. Et on vous écoute.
Oui, je voulais savoir quand le vendeur était censé présenter l'ensemble des diagnostics, soit avant les offres de d'achat présentées en l'occurrence à l'agence, ou est-ce que ça pouvait se faire avant la signature du compromis, voire après.
Alors, tous les diagnostics sont pas à la même enseigne. C'est-à-dire que le seul diagnostic qui doit être à disposition à la mise en vente, c'est-à-dire même pour la mise en publicité ou l'affichage dans les agences immobilières, c'est le DPE, qui lui va donner l'information sur la qualité.
Mais lui, il est obligatoire avant.
Voilà, qualité énergétique du bâtiment. Et ensuite, l'ensemble des diagnostics qui sont à réaliser en fonction de l'année de construction du bien sont à transmettre en priorité au moment de la signature du compromis, mais peuvent être joints aussi au moment de l'acte authentique. Par contre, en général, il y a quand même l'obligation des 14 jours de rétractation, et le fait que les diagnostics ne soient pas paraffés par les deux parties peuvent engager ces 14 jours.
Est-ce que ça a une incidence sur la négociation du prix de la maison ?
Ah oui, majeur.
Oui, bien entendu. Oui, surtout avec la problématique de l'amiante à l'heure actuelle où lorsqu'un propriétaire acquéreur devient donc propriétaire également des déchets qui risqueraient de produire, la mise en déchetterie est assez compliquée pour l'amiante. Donc oui, bien entendu. Oui.
Alors, en tout cas, voilà Louis, ça vous va comme réponse?
Vous parliez de mise aux normes tout à l'heure par rapport au gaz. Bon, a priori, moi, j'aurais un petit problème d'électricité. Est-ce que le vendeur doit remettre aux normes avant la signature du compromis?
Non. Je dis non.
C'est juste un constat, en fait.
C'est juste un constat, ça vous informe. En matière d'électricité, il n'y a aucune obligation. On peut le regretter, hein, parce que je pense qu'il y a des biens qui se vendent avec des installations électriques que j'appellerais indignes. Mais là, on arrive peut-être au danger immédiat.
Encore une fois, le problème, c'est que les diagnostics qui sont fournis ne sont malheureusement pas toujours lus. Et le problème, c'est que lorsqu'un diagnostic est lu dans son intégralité, il peut informer correctement un acquéreur. Et l'acquéreur peut demander soit à son agent immobilier, soit au notaire qui fait la transaction, de renégocier le bien en fonction des travaux éventuels à réaliser pour la mise aux normes.
D'accord.
Voilà.
Vous avez répondu.
Voilà Louis, merci.
Merci.
Au revoir. Alors, au revoir. Parmi les diagnostics, il y a le fameux DPE qui est décrié, le diagnostic de performance énergétique. Alors j'ai vu que il y avait des points qui allaient changer de façon importante à la rentrée. Hein.
Il va y avoir énormément de modifications.
En janvier.
On parle d'un DPE.30.
Oui.
En fait, le DPE va être plus axé et ne va pas être simplement informatif, c'est-à-dire qu'il va devenir opposable en 2021. Alors en partie, bien entendu. Parce que
ça veut dire quoi, opposable?
Alors justement, c'est-à-dire qu'il pourra être utilisé pour pouvoir renégocier un prix ou faire valoir des droits.
Hein, oui. Voilà,
c'est ça en clair. Hein. Et donc l'intérêt surtout du DPE, c'est que il pourra être opposé une fois qu'il a été réalisé uniquement sur les relevés d'informations qui auront été faits. Par contre, tout ce qui pourra être conseil de rénovation resteront du conseil.
D'accord. Mais on parle de ne plus tenir compte des factures, parce que pour l'instant on tient compte des factures, ce qui est un peu idiot puisque suivant comment on se chauffe, suivant si le logement est occupé ou pas, c'est un grand pas, ça, je crois. Ouais, hein.
Ça a été une grosse problématique qu'on avait. Il y a deux méthodes de calcul dans le DPE, ce qu'on appelle la méthode 3CR. SQL, qui est en fait du relevé d'informations. Donc il y a un algorithme de calcul, on introduit des informations à l'intérieur et cet algorithme donne une valeur. Et d'un autre côté, on a le relevé des factures. Alors le problème, c'est que le relevé des factures va donner une information sur le comportemental des occupants. En aucun cas, ça donnera une information sur la réalité de la consommation énergétique d'un bien. Je donne souvent comme exemple, quand j'en parle, de une dame âgée vivant seule dans une très grande maison et qui vit dans la cuisine et dans le salon qu'elle a transformé en chambre.
Les factures, ça ne veut rien dire.
Les factures ne veulent rien dire.
Une famille de 6 personnes donc, qui se chauffe beaucoup.
Voilà. Et donc le problème qu'il y avait aussi dans les DPE, c'est que lorsque les DPE étaient dévalorisables ou dévalorisants pour le bien, il y avait la possibilité de faire donc ce qu'on appelait les DPE vierges, qui étaient en fait des étiquettes qui ne donnaient pas d'informations parce que le propriétaire n'avait pas fourni les factures. Donc bizarrement, les factures disparaissaient.
Donc là, c'est vous qui allez être véritablement les diagnostiqueurs, les juges de paix.
Exactement.
Avec des critères peut-être plus objectifs.
Disons que les critères sont... c'est un critère de standardisation, c'est-à-dire qu'on va donner un critère en disant, dans une consommation logique d'un bien ou dans l'utilisation logique d'un bien, voilà la consommation d'énergie de ce bâtiment.
D'accord.
Après, au contraire, je dirais que ça sera un régulateur sur le comportemental, parce que les gens pourront se dire si je suis au-dessus de cette estimation, ça veut donc dire que je suis énergivore, et non pas mon bâtiment est pourri, vous voyez.
D'accord. J'ai parlé il y a quelques semaines, il y a eu pas mal de réactions parmi les auditeurs. J'ai parlé de l'obligation d'études de sol des terrains à construire en zone argileuse. Alors c'est pas vraiment un diagnostic au sens classique du terme. Vous pouvez nous en dire quelques mots, confirmer, je dirais un peu ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire par rapport au problème de gonflement et de retrait des argiles qui fissurent les maisons.
Voilà. En fait, si vous voulez, le principe va être de réaliser en préventif sur tout terrain nu à bâtir, ou savoir s'il est constructible d'ailleurs, de faire réaliser une étude de sol qui va donner une information sur la différence sur les affaissements de terrain qu'il y a pu y avoir au niveau des argiles. D'accord. Entre les sécheresses et les inondations. Et donc, ça va permettre à quelqu'un qui achète un terrain d'avoir au moins l'information de base, à savoir s'il aura des travaux complémentaires de viabilisation du terrain avant même de le faire construire. Puisque dans la majorité des cas, ce genre de contrôle était fait une fois le terrain acheté par le constructeur.
Et là, c'était trop tard. C'est-à-dire que, en fait, ça va indiquer le coût, le surcoût dans la construction pour éviter les phénomènes justement
Exactement.
De fissuration.
C'est ça. C'est tout souvent des surcoûts au niveau des fondations et ça oblige par exemple à enfoncer des pilotis, des choses comme ça, ou à revoir les radiers. Et souvent, il y a des coûts supplémentaires qui peuvent être conséquents.
Ouais. Diagnostic concernant il y a les termites évidemment, oui. Ça c'est très important, mais dans le même ordre il y a la mérule,
oui.
Et dans certaines régions, notamment je pense dans l'ouest de la France, en zone littorale, ça devient une vraie préoccupation.
On rappelle ce que c'est la mérule.
Alors, la mérule, c'est un champignon,
oui.
C'est un champignon qui se développe, l'univore, et qui finit par envahir
un champignon qui s'attaque en fait au mur, c'est ça.
Alors qui s'attaque, qui va chercher à la fois de l'eau et qui du coup va chercher aussi de la cellulose, donc pour se nourrir, et donc il envoie, donc on va dire des bras pour simplifier, qui vont percer les murs. C'est absolument incroyable, ça passe absolument partout.
Ça, et souvent c'est même masqué.
Alors ça entre dans quel diagnostic, ça? C'est le diagnostic parasitaire.
C'est une recherche qui est faite en France. Il y a la recherche de termites qui est régie par des arrêtés préfectoraux. Et donc ces arrêtés mettent en place l'obligation de faire ou de ne pas faire de diagnostic si les termites ont déjà été repérés dans un termite. Et donc il existe un autre repérage qui s'appelle l'état parasitaire, dans lequel il y a la recherche de mérules. Par contre, à aujourd'hui, par la loi Allure, il était prévu normalement de faire le diagnostic mérule, mais le problème, c'est que c'est un diagnostic qui, pour un diagnostiqueur, est destructif. Et donc, on imagine mal.
Ça veut dire qu'il faut creuser les murs pour s'en apercevoir.
Il faut soulever les planchers, il faut poinçonner et aller voir derrière les plaintes.
C'est pas simple.
C'est pas simple. Et puis surtout, c'est destructif. Donc, c'est un peu compliqué pour vendre une maison si elle se retrouve plein de trous. Et donc, l'obligation de mérules, souvent, la découverte se fait lors de travaux. Et donc, les propriétaires d'un bien immobilier qui découvrent la présence de mérules, granules doivent en faire la déclaration en mairie.
C'est comme les termites.
C'est comme les termites.
D'accord. Ça coûte combien globalement, en moyenne, une série de diagnostics?
Alors, c'est très régional, c'est-à-dire qu'on n'a pas des prix qui sont standardisés au niveau national, mais ça varie entre, on va dire, 150 euros et 500 euros pour une, ce que nous on appelle une totale, c'est-à-dire l'intégralité des diagnostics à réaliser pour un bien qui entre dans ce cadre-là.
D'accord. Ça prend beaucoup de temps?
Non. Alors encore une fois, le plus long des diagnostics, c'est le diagnostic plomb, puisque il y a l'action de poser une machine qui fait une recherche et qui donne la valeur de plomb instantanément. Mais sur un bien ancien, on peut aller jusqu'à 600 shoots, hein, donc enfin 600 mesures dans un bien.
Très bien, merci Christian B. Je rappelle, vous êtes responsable technique chez Exim. Il y a un site, j'imagine.
Oui, Exim.fr.
Exim.fr, on peut retrouver toutes les informations sur ces diagnostics. Il y en a 8 en gros, hein, c'est ça?
C'est ça. Voilà.
Merci beaucoup. Merci. Dans un instant, on revient pour la suite de ce week-end des experts maison avec notre mois du gaz, Christian. Et on va évoquer l'importance d'une maintenance régulière des chaudières à gaz.
Essentielle.
Par un technicien de maintenance. Et puis, on trouvera vos questions au 32-16 et votre coup de cœur. À tout de suite, c'était RMC, c'est la maison.
RMC. Jusqu'à 8h. Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Voilà, 8h moins le quart sur RMC dans un instant. Yvon sera avec nous au 32-16. Il a une question pour vous, mon cher Christian, mais pour l'instant, c'est le mois du gaz.
RMC, le week-end des experts.
Le bon plan maison.
Avec l'importance donc d'une maintenance régulière des chaudières gaz par un technicien de maintenance qualifié.
Oui, parce que les chaudières gaz associées à un système de chauffage central, à radiateur ou à plancher chauffant, ben c'est devenu l'un des principaux modes de chauffage des maisons individuelles, voire des appartements. Alors la chaudière gaz, c'est un matériel fiable qui est très sollicité, d'autant qu'elle fournit aussi souvent l'eau chaude sanitaire. Ce qui veut dire qu'il faut, de toute façon, en toute logique, comme on le ferait avec une voiture, il faut évidemment l'entretenir pour qu'elle puisse fonctionner en toute sécurité et dans les normes, parce que là il y a des normes précises qui sont imposées par la réglementation pour ce type de matériel. Alors, cette obligation d'entretien des chaudières, ça ne concerne pas que le gaz, hein. C'est pareil pour les chaudières fuel, les chaudières à bois, les chaudières à granulés, etc. Alors l'entretien annuel des chaudières par un professionnel qualifié, eh bien c'est rendu obligatoire par le décret de juin du mois de juin 2009, je crois, mais peu importe la date, enfin. En fait, il est à la charge de l'occupant propriétaire ou locataire, sauf mention contraire dans le bail, mais c'est assez rare que le propriétaire, mais sauf pour être sûr que c'est bien entretenu, mais c'est assez rare que le propriétaire ait pu vous faire cadeau de cela si vous êtes locataire. Alors, vous devez produire chaque année l'attestation d'entretien de la chaudière en même temps que celle du ramonage du conduit alors au propriétaire, et si vous êtes propriétaire, c'est votre assureur qui peut l'exiger. Alors vous avez de toute façon intérêt à faire procéder à cet entretien. Pourquoi ? Eh bien pour d'évidentes raisons de sécurité, mais aussi simplement pour que la chaudière fonctionne correctement et qu'elle consomme moins. Parce qu'une chaudière qui est bien entretenue, c'est 10 à 12% déjà de consommation gagnée. Alors vous pouvez bien sûr appeler chaque année un technicien de maintenance pour procéder à cette visite d'entretien. Alors c'est quoi la visite d'entretien ? Eh bien c'est nettoyage interne de l'appareil, démontage, nettoyage, réglage du brûleur, contrôle de la régulation et de la sécurité de la chaudière, vérification du processus de combustion, contrôle de température des fumées et de leur teneur en monoxyde de carbone. Alors, à l'issue de ces opérations, le technicien doit vous délivrer une attestation d'entretien en bonne et due forme et vous devez la conserver 2 ans. Alors, attention, cette visite, c'est pas une visite de rénovation, c'est pas une visite de dépannage, c'est pas une visite de réparation, de remise en état de la chaudière. Ça vise simplement au réglage et à attirer votre attention sur un certain nombre éventuellement de dysfonctionnements. Si vous voulez inclure cette notion de réparation, de rénovation, peut-être un peu de remise en état plus complet de la chaudière, eh bien il faut que vous preniez un contrat de maintenance annuel. Mmh. C'est beaucoup plus simple parce que comme ça tous les ans le technicien vous rappellera, vous dira je passe, etc. Alors comme toujours avant de signer ce genre de contrat de maintenance, eh bien faites jouer la concurrence, hein. Vous faites 2 ou 3 devis, c'est tout à fait possible, mais attention, ce technicien, il doit être agréé auprès d'un organisme professionnel qualifiant, c'est essentiel. Le coût de la maintenance, c'est combien? Bah, c'est assez variable. Mmh. Pour une simple visite d'entretien, ça va commencer à 80 euros. Attention, pas trop bas. Et puis, ça peut aller jusqu'à 180 à 200 euros par an, en sachant que ce contrat de maintenance, il est assujetti à la TVA à 10%. Si votre logement a plus de 2 ans, ça n'est vraiment pas de l'argent gaspillé. Il faut absolument que vous fassiez entretenir vos chaudières et notamment vos chaudières gaz.
Le bon plan maison avec PG Professionnel du gaz et le certificat de conformité qui est et reste obligatoire pour une installation gaz en 2020.
On reste toujours dans le même sujet, dans le même thème avec Yvon qui est avec nous au 32-16. Bonjour Yvon.
Bonjour Julien et Christian.
Bonjour Yvon.
Non, c'est François. Yvon, mais c'est pas grave. C'est vrai qu'il y a pas mal de sorelles qui traînent. Pas de souci. Alors, expliquez-nous. Vous voulez nous parler justement de, eh bien, d'eau chaude, visiblement, dans votre maison, dans votre salle de bain.
Oui, donc j'avais auparavant une chaudière gaz.
Oui.
Et en parallèle, un cumulus gaz pour la production d'eau chaude.
Un cumulus gaz.
Oui, j'avais d'une part à chaudir pour le chauffage et de l'autre donc une production d'eau chaude au gaz par indépendante. Et j'ai fait remplacer donc le tout par une chaudière mixte, les deux. Et depuis, j'ai mon mitigeur de douche thermostatique qui ne régule pas bien l'eau chaude. Et je me suis renseigné auprès de la marque, disons, de la chaudière, et puis même en magasin. Et on m'a dit que c'était, comme mon mitigeur était de, disons, plutôt bas, à moyenne gamme, c'était à cause de cela.
Alors attendez, votre chaudière, ce qui vous produit l'eau chaude, c'est une chaudière instantanée.
Oui.
Eh ben voilà. Ben donc les robinets thermostatiques ne marchent pas avec les chaudières instantanées. Ça ne marche qu'avec les ballons d'eau chaude. Donc c'est simple. Vous pouvez pas avoir un mitigeur thermostatique avec une chaudière qui évidemment vous envoie, ça se comprend, on l'a tous connu ça, une chaudière instantanée qui produit évidemment l'eau chaude en même temps que le chauffage, eh bien elle vous envoie de l'eau à plus ou moins forte température. C'est assez désagréable d'ailleurs, je vais vous dire, bienvenue au club, j'ai ça chez moi à Paris. Donc vous ouvrez votre robinet et moi il n'est pas thermostatique et non, l'eau elle va varier
C'est désagréable.
De 10 à 15 degrés. Et donc votre robinet thermostatique il devient fou le robinet thermostatique ça ne peut marcher qu'avec
si on a une eau chaude à la même température tout le temps,
donc sur un ballon à accumulation. Il n'y a pas de secret.
Voilà, au moins comme ça, c'est clair. Donc, on se rend compte de l'intérêt quand même des ballons d'eau chaude.
Ah, bien sûr. Je suis toujours. Voilà, je suis assez favorable pour une production séparée de l'eau chaude. L'eau chaude, par exemple, gaz, enfin, pour produire le chauffage. Et puis, éventuellement, un chauffe-eau à accumulation ou un ballon d'eau chaude lié à une chaudière. C'est ce que j'ai, en revanche, dans ma maison principale.
Christian, on termine ce rendez-vous maison par votre coup de cœur.
Alors, coup de cœur, coup de gueule, on ne sait pas trop ce que ça va donner. C'est le carnet numérique du logement. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est prévu par la loi Elan. C'est un serpent de mer dont on parle depuis des années. Ça semble enfin sortir la tête de l'eau sous l'impulsion de plusieurs associations de promotion, dont Qualitel, Énergie Demain, EDF. Alors, c'est quoi? Ben, c'est un véritable carnet de santé ou une carte vitale de votre logement qui doit contenir le descriptif complet de celui-ci, sa performance énergétique, son empreinte carbone, on revient à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, l'historique des travaux qui y ont été effectués et bien sûr l'ensemble des diagnostics obligatoires dont on a parlé tout à l'heure. Alors dans un premier temps, ça ne doit concerner que les logements neufs construits depuis 2017, puis progressivement à partir de 2025 ça va concerner l'ensemble des logements puisque ça sera lié à la mutation, c'est-à-dire aux ventes et certainement à la mise en location. Là aussi ça a été évoqué ça fait faire du boulot pour les diagnostiqueurs, je vous le garantis. Alors l'objectif, il est louable, il est de permettre à l'occupant notamment d'avoir en permanence la vision de l'état de son logement, des points à entretenir ou à améliorer. Ça, c'est très positif, mais ça peut aussi être un outil extrêmement intrusif par les pouvoirs publics pour prendre demain des mesures, soit incitatives, par exemple, pour vous dire attention, vos fenêtres elles ont 25 ans, il faut les changer. Ça peut donc être un outil pour vous permettre d'avoir par exemple des subventions, mais on peut se demander si un jour ça ne va pas être aussi un outil pour vous dire attention, vos fenêtres elles ont 25 ans,
sur les doigts.
Et paf, vous allez prendre une taxe parce que vous êtes un trop gros consommateur d'énergie. Moi, je suis assez réservé. Bonne chose d'un côté, si c'est bien maîtrisé derrière et si c'est en de bonnes mains.
Parfait, Christian. Eh bien voilà, on en sait plus. Alors là, on ne sait pas, ça va arriver quand cette histoire-là?
Eh bien, c'est depuis 2017 sur les logements neufs déjà.
Ouais.
Ça arrivera en 2025 pour donc les mutations, les ventes des logements anciens. C'est demain. Hein.
Parfait, Christian Pessé, merci beaucoup. On se retrouve samedi prochain.
On va parler un peu d'éco de Noël la semaine prochaine. Sens qu'avec Patrick,
avec
on va
Patrick
essayer
Mulan, vous
de
allez
faire
vous...
un petit quelque chose ensemble.
Oh là là, le couple Christian Pessé, Patrick Mulan, pour nous faire le sapin de Noël. Ça, c'est beau.
C'est sympa, hein.
Tiens, en parlant de sapin de Noël, regardez le pull de Christian avec.
Ah, bah écoutez, là, il a un pull absolument. Hein, c'est dommage.
Tous ceux qui me connaissent savent que ce pull, je l'ai mis quand j'étais interne en réa, avec le professeur Larcan. Ils m'ont vu depuis 40 ans avec ce pull. Pendant 30 ans,
il y a des jours d'ailleurs. Non, mais attendez, vous savez quoi? Je pense que, vu la couleur de ce pull, forcément, on réanime n'importe quoi. C'est-à-dire que quand vous étiez interne en réanimation, il suffit que le patient ouvre les yeux, il est réanimé. C'est incroyable.
Il était dans le placard pendant 30 ans. J'ai osé le ressortir ce matin. Et je savais que vous alliez me chambrer sur le sujet.
Christian, je pense qu'il faut définitivement
le mettre au placard.
Tourner la page, pour rester un peu poétique. Tourner la page avec ce pull, voire le mettre à la poubelle.
Mais sur le bon coin, je suis sûr que
je vais le donner à Thierry Lafronde parce que concrètement, il le veut. J'étais prêt à vous le donner.
Alors, puisqu'on parle de bon coin, moi je suis prêt à payer pour que Paul puisse le mettre. Hein, franchement, là je vous le dis. Christian Reca, dans un instant, qui au-delà du fait qu'il a mis un pull un peu particulier, et notre médecin talentueux du samedi matin, on va évoquer bien sûr notre rendez-vous Forme Santé avec lui et entre autres parler de télémédecine. Tiens. Et puis bien sûr, vos questions Forme Santé au 32-16. A tout de suite après la météo et les infos.